Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Expédition en Antarctique, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Cécile Vachebrotte, réalisée par Baptiste Guiton. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui vous emmène pour un voyage au bout du monde, dans l'un des endroits les plus reculés et les plus hostiles de la planète, l'Antarctique. Nous suivrons une équipe de scientifiques, des chercheurs, qui n'ont pas hésité à braver les pires conditions pour trouver, comprendre et aider l'humanité. Pensez donc. On dit qu'il y a plus de 650 millions d'années, la Terre n'était qu'une boule de glace. L'homme, lui, est apparu il y a seulement 4 millions d'années, ce qui ne l'empêche pas de faire comme chez lui, et ce qu'il veut de la planète, on le connaît. Depuis les premiers explorateurs et aventuriers qui se lancèrent à la conquête des pôles dès le 4e siècle avant notre ère, dont ce bon vieux Pythéas le Marseillais, jusqu'aux forages et carottages d'aujourd'hui, les hommes ont toujours rêvé de percer les mystères de la glace. On pense aux expéditions scientifiques des 18e et 19e siècles, comme celle de Barent, Nansen, Dumont-d'Urville, Amundsen, Charcot, Paul-Émile Victor, sont devenus des stars, aux premiers exploits en groupe ou en solitaire, comme celui de Jean-Louis Étienne, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, ou encore, aux bases scientifiques installées dans la deuxième moitié du 20e siècle, faisant des pôles un observatoire privilégié pour l'étude de phénomènes atmosphériques, géologiques, écosystémiques ou encore biologiques et physiques. Ici, l'histoire s'est écrite. Eh bien, cette histoire, aujourd'hui encore méconnue, possède un caractère hautement sensible. C'est en effet là-bas, au bout du monde, que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, des nations vont surmonter leurs désaccords, des chercheurs de tous les pays vont œuvrer ensemble dans un projet commun, percer les mystères de la glace et découvrir les derniers secrets de notre planète, et notamment celui qui porte sur son climat. Après la fiction, pour revenir avec nous sur cette fantastique histoire, dont il fut d'ailleurs l'un des acteurs, nous recevrons le professeur Jean-Robert Petit, directeur de recherche au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble. Il nous attend en l'occurrence à Périgueux, dans les studios de France Bleu Périgord, que nous remercions pour leur accueil.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Expédition en Antarctique de Cécile Weisbrot. Réalisation Baptiste Guiton.
Nous sommes quatre. Moi, Rémi, le glaciologue qui parcourt la montagne pour récolter et étudier des échantillons de glace. John, le paléobotaniste qui recherche les traces de la flore préhistorique. Marianne, la climatologue. Et Alexis, le micro-paléontologue qui scrute les microfossiles. Nous ne nous connaissons pas. Pas encore. Mais nous sommes réunis là, dans le lieu le plus isolé de la Terre, au cœur de l'Antarctique. En dehors du temps, même si le calendrier indique décembre 2017.
J'aimais la mer. Rémi, la montagne. Alexis, la littérature. Et John, l'aventure. Nous tous, le mouvement. Et nous voilà coincés dans l'avant-poste de la station de recherche, dans une tente éphémère prévue pour y rester quelques jours seulement. Dehors, le vent souffle à plus de 100 km/h. Une tempête de neige qui fait rage depuis avant-hier.
Eh ben moi qui croyais que ces tempêtes n'arrivaient que l'hiver.
On voit que t'as pas l'habitude. Hiver ou été, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'en été, il fait jour.
Tu aurais pu te renseigner un peu avant de venir.
Et tu es venu pour chercher des traces qui remontent à des centaines de millions d'années. Le reste, ça m'est égal. Tes insinuations ne m'atteignent pas.
Nous sommes tous là pour quelque chose qui nous dépasse. Calmez-vous.
Regardez ces spirales blanches. Les dessins de leurs tourbillons.
Cette question me hante. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle ère du Permien? De l'époque où la vie a été effacée d'ici?
Une nouvelle extinction de masse.
L'air s'est chargé tout à coup, enfin sur des millions d'années, de dioxyde de carbone. Un taux irrespirable. Conséquence d'un réchauffement climatique, d'une aridité extrême.
Éruption volcanique, astéroïdes venus heurter la Terre. Aucune hypothèse n'est exclue.
C'était il y a 250 millions d'années. Presque toutes les espèces marines ont disparu et les deux tiers des espèces terrestres.
Nous sommes venus d'Amérique, de Suède, de Russie et de France pour converger vers la base du mont d'Urville, à 5 km des côtes de l'Antarctique. Il nous a fallu 4 heures d'avion pour arriver à la station Concordia, la seule station européenne permanente au cœur du continent.
Bulletin météo du jour. Vent toujours aussi fort. Chute de neige continue.
Moralité, on est toujours bloqué. Avec juste 2 jours de vivre devant nous.
Moi aussi, on se racontait des histoires, comme au coin du feu.
Ça t'est arrivé souvent dans ta vie de chercheur d'être au coin du feu?
Des souvenirs d'enfance. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une ville des États-Unis, à Fayetteville. C'est une ville de casernement et d'industrie d'armement. La vie était assez morne, mais j'avais entendu dire qu'il y avait pas loin une ville engloutie par la création d'un barrage et d'un lac artificiel. Et la ville s'appelait Hudson. Je me souviens la première fois où j'y suis allé, j'avais 15 ans. Le lac était presque entièrement asséché. Et j'ai vu affleurer les vestiges de constructions anciennes.
Une vraie ville fantôme.
Et ben, quand je regarde par la fenêtre, tout ce blanc de glace et de neige, et que je vois dans les boues qu'on prélève les traces d'une végétation passée, je pense à Hudson. En regardant le lac, on n'imaginait pas qu'il y avait toute une ville au fond.
Moi, j'ai toujours habité Stockholm. Une capitale, mais un archipel aussi. Une ville gagnée sur les eaux. Un univers en soi qui pourrait suffire pour une vie. Quand j'étais petite, je voulais connaître toutes les îles. Ouais, je disais, il y en a 1000, c'était pour moi un nombre infini. À Noël, on m'a offert Nils Holgersson.
Salma Lagerlöf.
Exact. Et j'ai lu avec passion son voyage à travers la Suède. J'ai appris à guetter les oiseaux migrateurs, les oies sauvages qui partent à l'automne et reviennent au printemps. Et j'ai voulu, moi aussi, voyager. De plus en plus au nord. Jusqu'à ce que je me rende compte que le nord le plus extrême, ce n'était pas l'Arctique, mais le Grand Sud. L'Antarctique. Et toi, Alexis?
Moi?
Oui.
Je suis né à Irkoutsk. Le Transsibérien y passe sur sa route vers la Chine. Mais malgré la profondeur du lac Baïkal, les légendes qu'il contient, qui sont parfois effrayantes, malgré la gare, les maisons en bois, les bâtiments modernes qui se côtoient, le plus grand voyage que j'ai fait, c'est d'aller de l'Union soviétique à la Russie contemporaine. Des valeurs disparues du jour au lendemain, comme Hudson, ta ville engloutie dans le lac. D'un coup, on ne reconnaissait plus rien. Je me souviens du premier McDonald's à Moscou. Jamais je n'aurais imaginé voir ça. La nostalgie de l'Occident que j'avais à l'époque soviétique a disparu d'un coup. Et j'ai voulu partir loin, à l'autre extrémité du globe.
La neige ne doit pas te dépayser vraiment?
L'hiver est long en Sibérie, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ici.
Et les distances immenses?
Ici, la terre n'appartient à personne. Ici, les gens cèdent au lieu de s'envier. C'est en pleine tension de la guerre froide qu'on a signé le traité de l'Antarctique, stipulant que tout y serait exploité à des fins pacifiques, dans un objectif scientifique et de protection de l'humanité, qu'aucune revendication territoriale ne serait admise. Et des pays ennemis ont signé en 1959.
59.
L'URSS et les États-Unis, le Japon et la France, vous connaissez l'histoire.
Allô? Allô? La liaison avec la station est coupée.
Non. On peut tenir combien de temps avec les provisions?
2 jours, je vous ai dit.
En se restreignant un peu, on doit pouvoir tenir un jour de plus. La tempête ne va pas durer éternellement. Raconte. Rémi, t'as encore rien dit.
Ouais, enfin, j'ai pas connu les grands horizons comme vous. J'ai grandi à Paris. Dans un entrelac de rues encombrées et de squares, avec un mélange de cours intérieurs mornes et de monuments prestigieux. Rien ne me destinait au grand désert blanc où nous sommes. Si ce n'est qu'un jour, j'ai voulu tout laisser derrière moi et ne plus avoir de passé. Et effacer ma vie d'avant. Ces pesanteurs, ces déceptions.
À cause de quelqu'un?
Une histoire que j'aime à oublier. Ce qui est bien ici, c'est que les traces s'effacent.
Une journée de perdu. Elle ne fait pas meilleure aujourd'hui. L'avion qui nous ramène à la base arrive quand?
Dans 3 jours.
Il était prévu de repartir demain à la station.
Ça va faire juste, on n'a encore rien récolté.
Un peu de patience. Ça peut s'arrêter dans quelques heures. Enfin, c'est vrai qu'il est plus facile de reconstituer le climat il y a quelques centaines de milliers d'années que de prévoir la durée de cette tempête.
Nous avons 3 km d'épaisseur de glace sous les pieds. La station franco-italienne Concordia, dont on s'est éloigné pour récolter des spécimens, se trouve à plus de 1000 km de la base des bords du continent. Là viennent des astronomes. Le ciel est d'une pureté totale. Là viennent des climatologues prendre les mesures du temps. Là viennent des sismologues. En hiver, la température descend jusqu'à 75 degrés.
En hiver, seule une dizaine de personnes restent pour entretenir le matériel. Dans la tente, amenée par une sorte de tracteur chenille, une silhouette blanche, arrondie comme un igloo, la forme qui protège le mieux des intempéries, ils attendent. C'est la première fois que des humains viennent ici. Qu'ils y vivent, qu'ils y dorment.
Quand je pense que personne n'a encore marché dans cette neige.
Même pas nous. Je supporte pas d'être coincé, je sors.
Mais t'es fou ? Le vent souffle à 100 km/h, on voit pas à 50 cm. John !
J'ai pas choisi ce métier pour être sédentaire. Moi je suis nourri de récits d'expédition. Shackleton, Amundsen, je me retrouve dans des bureaux. Et pour une fois qu'on me propose une mission, impossible de sortir.
Et c'est vrai ce que tu dis. La première fois, j'étais presque déçu. J'avais vécu chaque étape comme une aventure. Le bateau glissant au milieu des glaces, l'avion qui survole le relief accidenté et l'atterrissage au milieu des neiges. Chaque avancée était une sorte d'initiation. Quand j'ai vu apparaître les 2 tours blanches de la station, robustes comme celles d'un château fort au milieu de nulle part, mon cœur battait plus fort. Mais une fois à l'intérieur, j'avais l'impression de me retrouver dans mon labo à Paris. Des téléphones, des écrans, des ordinateurs, une cantine. Et le bouquet, c'était cette conférence pour les nouveaux venus avec leurs recommandations sur le tri sélectif.
C'est drôle, j'ai eu l'impression inverse. La distribution des lieux est très particulière. Une tour pour les activités de détente, une autre pour le travail. Une tour pour le silence, une autre pour le bruit. Au début, j'osais à peine parler. À chaque minute, j'avais conscience d'être en Antarctique. Je n'arrêtais pas de me répéter « Tu y es vraiment, tu y es vraiment, tu y es vraiment, tu as réalisé ton rêve !»
J'aime la couleur orange autour des fenêtres. Bizarrement, c'est en voyant cette nuance qui détonne sur le blanc que je me suis sentie au plus loin de chez moi, mais au cœur de moi-même.
Continue à discuter, moi je sors. Je ne suis pas venu jusque-là pour me croiser les bras.
Tu nous traites de paresseux ?
Chacun fait comme il veut. Les 24 heures viennent de s'écouler pour rien.
Tes fossiles sont là depuis des centaines de millions d'années. Ils t'attendront bien encore quelques heures.
John, c'est trop dangereux.
Je suis venu justement pour affronter le danger.
John, tu es fou.
Mais la paléobotanique est une folie. Non, imaginez, au lieu de ces grandes étendues blanches, des forêts entières, peuplées d'animaux gigantesques. Imagine, ici, un climat tropical. L'ancien continent du Gondwana. C'est pas de la folie, hein ? Non, quand je regarde le paysage, par-delà la glace, la neige, je vois du vert. Partout, je vois d'immenses arbres qui ressemblent un peu au ginkgo qu'on connaît. Alors traitez-moi d'halluciner, d'illuminer, je m'en fous.
John !
Enfin seul. Il me tape sur les nerfs, aucune curiosité. Pour des chercheurs, c'est un comble. Je ne vois rien, à peine la main que j'étends devant moi, comme si j'étais entré dans un nuage. Je vais vers le sud, je lutte contre le vent. L'aventure. Plus au sud, je crois. Je tiens à peine debout. C'est la couleur de la roche qui indique la présence de fossiles, mais dans ce brouillard blanc, comme on voit. Non, ils avaient tort, avec leur prudence, leur peur.
Sous la tente, on fait semblant de ne pas attendre. On manie des ustensiles, on range pour tromper l'inquiétude.
Il est parti depuis combien de temps ?
Une demi-heure.
Je suis pas rassurée.
Il va se rendre compte que ce n'est pas possible, il va revenir.
Mais il suffisait d'ouvrir la porte pour s'en rendre compte. Il s'est peut-être perdu. Non, vous croyez pas qu'il faudrait aller à sa recherche ?
Laisse-lui une chance de revenir.
Et s'il n'en revient pas?
On dirait que le vent se calme un peu.
Il y a toujours autant de tourbillons.
John avait raison. Vous parlez trop. Vous tergiversez. Moi, j'y vais.
Attends, attends. On ne peut pas se permettre de se disperser.
C'est là, peut-être. Il faut creuser, déblayer la neige pour que la roche affleure. Incroyable, le vent vient de tomber. Ce renflement. Sous la pelle, je sens une roche dure. Il faudrait un marteau-piqueur, il me laisse seul avec des moyens artisanaux. Le vent a repris. Ça y est, j'attaque la roche. Il y a de la boue entre les éboulis. Ce morceau, des traits gravés. C'est bizarre, j'avais froid et maintenant j'ai presque chaud. Il faut creuser encore, c'est le plus important. Gratter cette boue. Je ne vois plus grand-chose, je ne sens rien. J'ai sommeil.
Nous n'en pouvions plus d'attendre. Et nous voilà, nous aussi, sous la tempête, partis à la recherche de John.
Vous entendez? C'est sa voix! Venez!
On entend le vent!
Mais non! Écoutez! Un gémissement!
Non, c'est la tempête!
Comment être sûr qu'il a toujours marché dans la même direction, vers le sud, comme prévu? On voit rien! Aucun appareil ne fonctionne!
La neige efface les traces de pas. Aucun repère. On ne pourra jamais le retrouver. On n'aurait jamais dû quitter la tente. S'il revient et qu'il voit personne, il risque de repartir à notre recherche. Ça peut durer longtemps.
Et mal c'est terminé.
Cette chaîne de montagne devant nous. Il doit être au pied. C'est là que je me serais arrêté moi aussi pour chercher.
Mais quelle montagne? Avec une étendue blanche et uniforme partout. Aucun relief saillant.
Tous ces pics hérissés. Jamais je n'ai vu de tels reliefs. Quelle splendeur!
Qu'est-ce que tu peux distinguer à travers ce brouillard?
Tu te moques de moi? Ce n'est pas assez spectaculaire?
Non, sérieusement, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a que la glace et la neige. Un immense tapis blanc, à des kilomètres, à la ronde, qu'on devine même plus.
La neige! Sur les montagnes! Bien sûr! Blanc! Blanc, tout est blanc! C'est comme si la couleur pénétrait en moi! C'est comme si moi aussi je devenais blanche! Et vous? Regardez! C'est lui! Exactement là où je pensais! Au pied des montagnes!
Où ça?
Mais là! Devant nous! John! On arrive, tiens bon!
Tu vois quelque chose?
Rien!
Cette forme blanche là-bas qui marche vers nous, mais. Ils sont plusieurs! Ils avancent vers nous! Peut-être. Peut-être qu'ils sont venus nous ramener à la station! Ouh! Ouh! On est là! On est là!
Mariam!
Elle ne t'entend pas!
Merci d'être venu!
Mariam! Mariam, il n'y a personne!
Ils sont venus à notre secours! Et John est avec eux!
Elle délire!
Youh! John! On est là!
Plusieurs romans de Jules Verne se passent en Arctique ou en Antarctique. César Cascabel, Le Pays des Fourrures, Les Aventures du Capitaine Atterras, Le Sphinx des Glaces, quelques chapitres de 20 000 lieues sous les mers. Et dans les grandes étendues blanches, sur terre ou sur mer, il se produit des phénomènes étranges. Des ours polaires prennent des proportions monstrueuses, on croise un banc de glace d'une blancheur si étincelante qu'il faut détourner les yeux. L'un des personnages, dit Jules Verne, croit devenir fou de blancheur. Un autre est en proie au vertige du blanc. Dans tous les cas, c'est cette couleur blanc uniforme qui provoque des hallucinations. Nous avons beau appeler Marianne, elle ne nous entend pas. Elle est ailleurs, dans un autre monde. Et elle avance toujours vers ce qu'elle croit être John.
Il ne faut pas la perdre de vue.
Attends. J'ai une idée.
Pour un instant d'inattention, on risque de la perdre. Chaque seconde est précieuse. Pour John, d'abord. Nous étions quatre, et nous risquons de ne rentrer qu'à deux, si on arrive à rentrer.
Regarde.
Qu'est-ce que c'est?
L'an dernier, dans un refuge d'exploration polaire, on a retrouvé une aquarelle qui représente un oiseau mort. L'aquarelle date de 1899. Elle a été peinte par Edward Wilson, l'un des membres de l'expédition Scott. On pense qu'il l'avait emmenée dans ses bagages, peut-être pour lui porter chance, même si avec le recul, on a plutôt l'impression que c'était la préfiguration de son sort.
Il n'y a eu aucun survivant dans cette expédition, si je me souviens bien.
Non. Ils ont atteint le pôle pour voir qu'Amundsen les avait précédés de quelques jours et qu'il avait planté son drapeau à l'endroit où ils pensaient arriver les premiers. Ils ont pris le temps, sur le chemin du retour, malgré l'épuisement et les intempéries, de collecter des feuilles pressées dans la roche. Un grand courage.
Où est Marianne ?
Là, devant nous, elle s'est arrêtée.
Elle est dans une sorte de transe. Qu'est-ce que tu veux faire de ce dessin ?
Je vais le lui montrer.
Pour rompre la blancheur ?
Exactement.
Et tu crois ?
Marianne ! Marianne, regarde ce que j'ai trouvé dans la neige.
Un oiseau ? Et pourquoi tu montres ça ?
Tu es bien là ? Tu es de retour, avec nous.
De retour? Mais je vous ai jamais quitté. Faut retrouver John.
Marianne, tu avais...
Nous ne perdons pas de temps.
Là, une tache sombre.
Oh mais c'est ton tour maintenant. Ouais non, non c'est vrai. J'ai l'impression de quelque chose, moi aussi.
Quelqu'un? John?
John? Tu nous entends? John?
Il répond pas.
John, vite. Il est inconscient. Prends-le avec moi.
Allez. Oh.
Allez. Doucement, doucement.
Oh. Et respire. Il n'est qu'évanoui.
Il est juste en hypothermie, Alexis. Fais-lui du thé. Ouais. Faut qu'il boive du chaud, vite.
Oui, oui, on a pris ton sac. Tout est là. Allez, bois. Doucement, doucement.
Ice Memory Project. Les glaciers fondent. Une partie de l'histoire de la Terre est vouée à disparaître. Ice Memory Project. Des échantillons seront préservés systématiquement, envoyés en Antarctique pour garder la mémoire du climat, la mémoire des différents états de la Terre, de l'histoire de notre planète. Tandis que de l'autre côté du globe, à 1300 km du pôle Nord, sur l'archipel Svalbard, sont recueillies les graines des végétaux du monde entier, gardées sous une voûte, une sorte d'immense bunker. Plus de 930 000 spécimens aujourd'hui dans cette immense banque de données. Un tiers des variétés cultivées. Un chiffre qui augmente chaque année. Les deux pôles sont notre bibliothèque, notre sauvegarde.
Bon, ben, je vous dois la vie. Je vous remercie encore. Mais comment vous dire, j'ai gardé la foi, j'avais confiance.
T'es croyant ?
J'avais confiance dans les lieux, on peut appeler ça être croyant. Mm-hmm. J'ai senti, après avoir ôté la neige qui venait sans cesse recouvrir la minuscule parcelle que je voulais arracher à ce merveilleux continent, j'ai senti que les forces me manquaient. J'ai essayé de me relever pour revenir vers la tente, mais mes jambes ne me portaient plus. J'ai senti que je retombais dans la glace, j'ai pensé que peut-être... Vous ne me retrouveriez pas à temps, que peut-être vous ne sauriez pas repérer l'endroit où j'étais, mais je savais que vous finiriez par arriver jusqu'à moi, et que même s'il était trop tard pour moi, il resterait ces morceaux de roche qui contiennent, j'en suis sûr, une partie de la forêt de l'Antarctique. Une partie de notre passé.
Et de notre avenir.
Et regardez, regardez ce que j'ai trouvé. C'est génial. Une feuille imprimée dans la roche. Si nette, une sorte de fougère. Il y avait sûrement toute une forêt à cet endroit. À quand remonte-t-elle? Je suis presque sûr que ce sont des espèces qui ont survécu à l'extinction massive du Permien. Il faudra à tout prix revenir.
On n'est pas encore parti et tu penses déjà à revenir?
Non mais pas avec toi, rassure-toi.
Bon, j'aimerais sortir une dernière fois avant l'arrivée de l'avion. Seul. Maintenant que la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Attention au soleil, Marianne. La réfraction des rayons peut aussi provoquer...
Marianne.
Quel bonheur de rester quelques instants seul, immobile. Dehors, le dos tourné à la station et aux autres pour ne voir que l'étendue. Le blanc. Partout. Ce ciel sans limite, d'un bleu si pâle. L'impression au bout de l'horizon d'atteindre non seulement l'extrémité de la Terre, mais aussi celle de la galaxie. Il n'y a pas de mots pour dire le sentiment qui m'étreint.
L'avion vient nous chercher, Marianne. Attends. J'ai quelque chose à te donner. Cet oiseau a quelque chose qui m'a touché profondément quand je l'ai vu. C'est un mélange de fragilité et de confiance, je sais pas comment dire. Moi, j'y vois pas un oiseau mort, j'y vois un oiseau dans l'abandon du sommeil. Et j'aimerais te le donner.
Mais pourquoi ?
En souvenir de notre expédition. En souvenir de moi.
Merci, Rémi. Merci.
C'était Expédition en Antarctique de Cécile Weisbrot avec François Perrache, John, Luc-Antoine Diquero, Alexis, Marilyn Fontaine, Marianne, Julien Campani, Rémi. Bruitage, Benoît Fèvre. Prise de son, montage, mixage, Pierre Monteil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Baptiste Guiton.
You feel my anger radiate, my brutality disseminate, still feels empty around me. But now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Battle's only just begun, and I'm going under. If you rise with the sun, we will go together. Dragging myself down, so deep and low, so red. But I know from the radio the world's changed all around. And I am in danger to be the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger. Brutality disseminates. Still feels empty around me.
Affaires sensibles, la fiction.
J'ai passé deux fois plus d'un an consécutif, mais c'était dans l'Antarctique et sur le plateau polaire. Je me souviens en particulier de la première expérience où je sortais de l'université où, avec deux camarades, c'était pour l'année géophysique internationale. Nous sommes restés isolés pendant à peu près un an.
Claude Lorius.
Alors on disposait d'une vingtaine de mètres carrés et à l'extérieur, la température moyenne était de l'ordre de moins 40 degrés centigrades. Et comment dire, oui, je crois qu'on revient changer, ça paraît sûr. Ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, je pense qu'on oublie assez vite toutes ces découvertes de soi-même qu'on peut faire dans ces occasions. Et puis on revient à la civilisation et on se laisse reprendre par un tas de contraintes. Alors c'est peut-être pourquoi, outre l'intérêt des recherches scientifiques qu'on y fait, eh bien on a aussi envie d'aller se retremper de temps en temps là-bas, ne serait-ce que d'un point de vue humain. Disons que ça impose quand même des contraintes sérieuses sur le plan climatique. Vous êtes quand même dans un milieu foncièrement hostile. Il est très facile de passer de conditions de vie normales à des conditions de vie dangereuses parce que l'environnement est particulièrement difficile.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'expédition antarctique. Notre invité, Jean-Robert Petit, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement. Bonjour Jean-Robert Petit.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes à Périgueux, vous êtes directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement. Ça se trouve à Grenoble, n'est-ce pas ?
Affirmatif.
En compagnie de votre mentor, le professeur Claude Lorius, vous avez participé à des forages qui ont contribué à la production du premier enregistrement climatique couvrant les derniers 400 000 ans. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Projet Vostok, le dernier secret de l'Antarctique » paru aux éditions Poulsen en 2012. Alors qu'est-ce qui pousse d'abord ces hommes, dont vous, à braver les pires conditions dans les endroits les plus sauvages, les plus reculés? C'est quoi? C'est la quête d'un absolu? C'est tout simplement l'amour des sciences, le désir de savoir, ou alors, comme le disait Claude Lorius tout à l'heure dans l'archive que nous avons diffusée, la découverte, partir à la découverte de soi-même.
Je ne pense pas qu'on aille en Antarctique pour se découvrir soi-même. C'est simplement parce que, enfin, on va là-bas parce que c'est simplement notre job. Et quand j'ai commencé des études en glaciologie, une annonce disait si vous aimez un petit peu la montagne et vous êtes prêt à crapahuter sur des glaciers, et même à pousser votre traîneau dans le brouillard, non pas pour faire un exploit sportif, mais simplement parce que c'est notre job, alors venez avec nous. Donc, on cherchait des jeunes pour faire de la glaciologie, qui était dans son développement technique et puis également analytique. Et on savait que au travers de la glace, qui est une mémoire de notre climat, mémoire de la Terre, on allait trouver quelque chose. Quoi ? On ne sait pas, mais il fallait mettre en œuvre tous les moyens pour récupérer la glace et puis les analyser ensuite en laboratoire.
Donc la motivation était purement scientifique, donc on a bien compris. Quand Claude Lorius disait la découverte de soi-même, c'est fait là, on se retrouve dans une situation au bout du compte qui est propice à la découverte de soi-même. C'est peut-être comme ça qu'il faut le comprendre. La motivation, c'est donc bien d'aller comprendre, d'aller chercher dans une démarche purement scientifique, on est d'accord?
Absolument, oui. Et on sait que quand j'étais embarqué dans cette aventure, entre guillemets, une collaboration initiée par Claude Lorius, franco-soviétique, pour étudier la glace de Vostok, les soviétiques avaient annoncé qu'ils avaient atteint 2000 mètres de profondeur à Vostok, mais ils n'avaient pas les moyens d'analyser la glace. Et Claude Lorius a fait une proposition vous nous envoyez des échantillons de glace, nous les étudions, les résultats nous discutons. discutons ensemble et nous publions ensemble. C'est une parole qui a toujours été tenue et c'est pour ça que nous avons pu avoir accès, disons, à cette glace et puis à faire une première série d'articles en 1987 qui retraçait 150 000 ans de climat à partir de la glace et qui montrait, au travers des cycles glaciaires-interglaciaires, donc des chauds et froids, la relation intime entre le climat et puis les gaz à effet de serre. Et ça a été, disons, en 1987, un Big Bang scientifique, puisque les autres scientifiques, en particulier les océanographes, qui étaient les maîtres, disons, dans la paléoclimatologie, avaient enfin un moyen pour se rendre compte que le cycle du carbone avait changé, donc le gaz carbonique de l'atmosphère avait changé, et en retour, ce gaz carbonique jouait dans les changements climatiques.
Alors, on va revenir sur les conclusions scientifiques, la meilleure compréhension non seulement du climat, mais du changement climatique, parce que c'est quand même le plus grand défi qui est lancé à l'humanité aujourd'hui, hein, ce changement climatique. Mais enfin, d'abord sur l'organisation, ce qui est formidable, et on le voit avec le projet Vostok, c'est que les pays de ce monde, leurs égaux, leur désir de dominer l'un ou dominer l'autre, là, on se met ensemble. Est-ce que c'est le seul territoire, cette recherche sur l'Antarctique, par exemple, où vraiment on se met ensemble et on dépasse nos clivages nationaux?
Bien sûr. Alors, à l'après-guerre, les nations ont décidé d'explorer l'Antarctique parce que c'était encore une terra incognita et on savait que pour les, par exemple, faire une bonne prévision météorologique, il fallait connaître un petit peu, documenter les données météorologiques sur toute la planète. Et c'était seul moyen pour pouvoir améliorer les prévisions. D'autre part, c'était également la découverte de la ionosphère qui était importante à l'époque pour les communications radio. Donc, les nations se sont entendues pour mener en 1957 l'année géophysique internationale et c'était le début de l'exploration antarctique vraiment avec des moyens modernes.
Et internationaux surtout, oui.
Internationaux, oui. Mmh. Oui. Et puis, disons, la taille de l'Antarctique, c'est 28 fois la France, est telle que les nations sont un petit peu obligées d'unir leurs moyens logistiques pour mener à bien tel ou tel programme. Programme de glaciologie antarctique, par exemple, requiert des bateaux, des tracteurs, des avions, avec une logistique extrêmement importante. Et ce programme de glaciologie antarctique qui a prévalu dans les années 70 unissait les Américains, les Soviétiques, les Australiens, les Français, pour un but, la connaissance et la description de l'Antarctique. Ensuite est venu les forages profonds, où on avait accès donc à de la glace ancienne, la glace étant le matériau unique sur Terre, qui enregistre fidèlement le climat par la composition de l'eau, mais également les poussières et aussi emprisonne des bulles d'air, donc des échantillons de l'atmosphère, qui nous permettent de connaître l'atmosphère passée et de l'analyser même des centaines de milliers d'années après.
Alors, dans la fiction, ils sont quatre scientifiques de différentes nationalités. Il y a un paléobotaniste, lui c'est un Américain. Il y a un micropaléontologue, c'est un Russe. Une climatologue, c'est une Suédoise. Et un glaciologue, c'est un Français. Ce genre d'équipe est courant?
Oui, bien sûr. À Vostok, nous travaillons avec les Américains, les Russes, les Français. Et à la base de Concordia, par exemple, qui est une base franco-italienne qui est installée à l'intérieur du continent, là défilent, disons, des scientifiques parce que les sites en Antarctique sont propres à telle ou telle mesure. Donc, quand un programme scientifique nécessite des mesures à un endroit donné, eh bien, il y a un accord entre les nations pour mettre à bien les moyens pour réaliser ce programme. Donc, il y a des scientifiques de toutes nations qui défilent. Et il y a un programme de forage qui a eu lieu à la station de Concordia, c'est le programme EPICA, c'est un programme européen où il y a 10 nations européennes qui se sont unies pour faire un forage qui atteint 3200 mètres de profondeur et qui a permis de remonter 800 000 ans d'archives, 800 000 ans.
800 000.
C'est le forage qui remonte le plus loin dans le temps et qui a vérifié donc les résultats préliminaires de Vostok sur 150 000 ans. Il les a poursuivis à Vostok sur 400 000 ans.
Oui, et jusqu'à 800 000.
Ensuite, jusqu'à 800 000 ans. Et avec toujours cette relation entre climat et puis gaz à effet de serre qui est maintenue. On n'a pas trouvé encore de climat sans modification des gaz à effet de serre.
Bien, justement, sur ce rapport-là, on y reviendra dans 3 minutes, Jean-Robert Petit, on essaiera de comprendre les racines de ce défi, encore une fois, je le répète, hein, qui est lancé à l'humanité, celui du dérèglement climatique, réchauffement climatique, changement climatique. Je ne sais pas comment dire exactement, mais on y revient tout à l'heure. À tout de suite. Jean-Robert Petit, avant d'écouter le disque qu'on vient d'entendre, vous nous parliez donc de cette relation changement climatique, gaz à effet de serre, exploration des glaces. En résumé, parce que c'est pas toujours facile à comprendre, et je vais demander aux scientifiques que vous êtes de vulgariser cette relation fondamentale que vous avez abordée tout à l'heure.
Alors, il y a eu 3 articles dans Nature en 1987 qui mettaient en évidence cette première relation. Et ensuite, il y a eu un article en 1990 écrit par Lorius, par Jouzel, Le Treut, c'est toutes des personnalités dont on entend parler sur le climat, mais aussi Jim Hansen, un Américain, et qui démontrait la sensibilité du climat aux variations de CO2 dans le passé. Et cette relation qui régit la physique de la machine climatique à l'échelle globale et qui est vérifiée maintenant sur 800 000 ans avec la carotte EPICA qui est obtenue à Concordia. Et cette physique entre composition de l'atmosphère et puis climat, cette physique perdurera avec l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines, et on le voit depuis 1850. Alors, cette question avait été déjà soulevée en 1898 par le chimiste Swant Arrhenius. Et lui, il n'avait pas d'ordinateur, et c'était simplement une idée qu'il avait émise avec à force de calcul, en disant, eh bien, si le CO2 change, eh bien, on peut expliquer, par exemple, les périodes glaciaires. Mais il se posait déjà la question sur les émissions de CO2 par l'utilisation massive du charbon. Et il avait fait déjà des extrapolations en 1898 sur le doublement du CO2 atmosphérique qui aurait des conséquences, il disait, 4 ou 5 degrés d'augmentation de température de la Terre.
Et il l'avait vu avec c'était les effets de la révolution industrielle, déjà? En fait, c'était
Mais, ça. Bien sûr, il se posait la question. La révolution industrielle a commencé, à partir de 1850. On voit déjà significativement dans la glace l'augmentation du CO2. Les balbutiements, c'est 1750, mais après, l'utilisation massive du charbon, c'est 1850, et donc là, on est en 1898, il se posait déjà la question. Mais c'est la glace qui a apporté vraiment la preuve que ça fonctionnait. Et évidemment, c'était également le thème principal qui était abordé lors de la COP21 à Paris en 2015 et qui donnait un espoir avec la signature par 192 pays pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Voilà. Donc, mais comme vous savez, les bonnes intentions sont souvent maltraitées par les intérêts des hommes qui sont malheureusement incompatibles, bien souvent.
Donc, bien sûr, et on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute ensemble l'archive, la deuxième archive, donc Claude Lorius, toujours lui, en 1991. Alors il décrit le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui.
Mon métier, c'est de faire parler la glace et de nous livrer toute l'histoire du climat de la Terre et de notre atmosphère.
Par les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace ?
Par la glace elle-même et par les bulles d'air qu'elle contient. C'est quand même tout à fait fantastique. Vous creusez à 1 kilomètre de profondeur et vous ressortez de l'air qui date de 50 000 ans, par exemple. Et pour l'instant, nous avons reconstitué la composition de l'atmosphère sur près de 150 000 ans.
Et qu'est-ce que ça vous apprend ? Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Eh bien, ce que ça nous apprend, d'abord, c'est que la Terre a connu de grandes variations climatiques. Et parmi les choses qui expliquent ces grandes variations climatiques, eh bien, il y a la composition de l'atmosphère. Et en particulier, les concentrations du gaz carbonique dans notre atmosphère. Les variations étaient alors naturelles, mais maintenant, c'est l'homme. C'est l'homme qui modifie la composition de l'atmosphère. Et une des choses que la glace a permis de montrer, justement, c'est que depuis 2 siècles, nous avons modifié la composition de l'atmosphère.
Ce qui provoque ce fameux effet de serre que les scientifiques déplorent.
L'effet de serre existe et la plupart des scientifiques prédisent que la température augmentera avec les teneurs du gaz carbonique dans l'atmosphère. Il est encore temps, dans les décennies à venir, de réfléchir par exemple à une politique de l'énergie, puisque l'essentiel du gaz carbonique provient de la production d'énergie. Donc je crois qu'il ne faut pas dire non plus qu'on va vers une catastrophe. Je crois que les chercheurs disent, attention, l'homme agit de façon significative sur l'atmosphère, ça va modifier le climat de la Terre, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Nous interrogeons la glace, dit Claude Lorius, vous le faites aussi. J'imagine que vous partagez les conclusions de Claude Lorius ?
Ben évidemment. Je crois que ce que j'ai dit avant était un petit peu dans ce film, mais lui le dit si bien.
Il le dit. Mais vous aussi, vous le dites bien. Alors, vous le dites bien. Il suffit pas de le dire. Il faut aussi être écouté. Alors, vous parliez effectivement des intérêts divergents, des lobbies économiques. Que doit-on faire ? Bon sang, j'ai envie de le dire comme ça, pour qu'on écoute les scientifiques ou qu'on ne fasse pas que les écouter poliment.
Les scientifiques, ils font leur travail, mais après. Enfin, avec la démission de Nicolas Hulot, là, ouais, c'est un petit peu négatif. Mais le point positif est que la plupart des citoyens en prennent désormais conscience. Tous les jours sur votre antenne, là, ne parle-t-on pas de canicule actuellement, de typhon en Chine, à Hong Kong, etc. Le citoyen prend de plus en plus conscience. Et il est grand temps que les politiques réagissent. En 1991, là, Lorius disait... Bon, on a le temps, on va s'organiser, etc. Mais bon, on est 30 ans après, ça devient urgent.
Il faudrait peut-être aussi sortir, mais c'est pas du fait des scientifiques, d'ailleurs, de cette espèce de guerre de religion sur le réchauffement, où au lieu d'avoir une analyse, on est presque dans les croyances, ceux qui disent « mais non, c'est pas vrai », alors qu'on a les preuves, quoi. On les écoute encore, hein, il faut passer de la croyance à la vérité scientifique. En fait, c'est peut-être par là qu'il faut passer déjà.
Nous ne faisons pas de la science une religion. Nous nous basons sur des faits.
Oui.
Et la glace en Antarctique, elle existe toujours là. C'est la mémoire qui est là. Et si vous croyez dans la technique actuelle, enfin la technique qui fait des fusées, la technique qui fait les automobiles, ça passe par de la physique et la machine climatique, c'est de la physique. Hein. Donc, ou bien vous êtes logique jusqu'au bout, ou bien vous ne l'êtes pas. Alors, si vous mettez de la croyance, il y a un petit peu de l'irrationnel dedans. Hein.
Oui,
donc,
mais c'est pas moi qui la mets. Hein. J'observe que certaines réactions sont plus dans une espèce de forme de croyance. C'est-à-dire, sans savoir, on est persuadé que les climato-sceptiques, par exemple, qui disent « mais non, c'est alarmiste », alors qu'il y a des preuves, vous les avez, les preuves. Et c'est quand même assez étonnant que certaines croyances soient encore écoutées face à des vérités qui sont des vérités scientifiques. Voilà, bon, c'était un constat. En 1999, Vostok fait de nouveau la une de l'actualité. On va terminer là-dessus parce que c'est quand même assez fascinant. On découvre qu'il existe un lac souterrain de la taille de la Corse, sous la station de recherche. Lac vieux de plusieurs millions d'années, jamais exploré jusqu'alors. On peut parler de découvertes extraordinaires. On peut encore, comme ça, découvrir des lieux, des lacs, ou autre chose, oubliés.
Oublié non, mais on avait prédit que sous les épaisseurs très importantes en Antarctique, le flux géothermique, donc la chaleur qui vient de la Terre, pouvait réchauffer la glace au point de la faire fondre. Et dans les dépressions du socle rocheux, de l'eau pouvait s'accumuler et former des lacs. Le hasard a voulu que sous Vostok, il y ait un immense lac et qu'on a pu avoir accès à ce lac indirectement par de la glace qui était formée par le gel de l'eau du lac. On a montré, par exemple, dans ce lac Vostok, on a trouvé des bactéries, par exemple, qui vivaient dans les sources chaudes, alors qu'on s'attendait à ce que, dans ce lac, qui est à la température de 0 degré, juste en dessous de 0 degré du fait de la pression, on s'attendait à des bactéries qui vivaient dans le froid, des bactéries psychrophiles. Or, ce sont les mêmes bactéries qui vivent dans le geyser de Yellowstone, qui fonctionne à partir de l'hydrogène et puis de carbonate, c'est-à-dire qu'à partir de rien du tout, elles sont là depuis la nuit des temps. Mmh. Donc oui, ce sont des surprises, mais l'intérêt de l'Antarctique et puis également des glaces, c'est qu'il faut garder cette mémoire de ces glaces. Et je voudrais vous parler d'un programme qui est en cours, c'est le programme Ice Memory, qui justement, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les glaciers alpins ne fondent, les glaciers andins, les glaciers de l'Himalaya ou de l'Afrique complètement disparaissent, eh bien, il y a un programme qui vise à sauvegarder ces carottes de glace qui sont la mémoire donc du climat, mais plutôt régional, la mémoire de la pollution, par exemple. Et l'objectif, c'est de récupérer ces échantillons et les stocker justement en Antarctique, non pas pour les analyser maintenant, mais les laisser pour les générations futures de chercheurs qui auront à disposition ces carottes et qui auront certainement développé des nouvelles techniques pour pouvoir analyser tel ou tel élément. Et côté chercheur, on doit réagir, on se doit de préserver la mémoire de l'humanité, parce que qui se trouve donc dans ces glaces pour, disons, pallier justement au réchauffement climatique qui affecte déjà les montagnes en altitude.
Bien, merci infiniment Jean-Robert Petit pour ce tour d'horizon très complet de ce que vous appelez joliment, et ce qui est une réalité, la mémoire de la glace. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'expédition Antarctique, une fiction écrite par Cécile Vachebrotte, réalisée par Baptiste Guitton, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Rémi Sistiaga et Raphaël Rousseau.